Le 12 novembre 1890, à Alger, le cardinal Lavigri, première personnalité de la colonie française en l'absence du gouvernement général, porta un toast à la République française devant les autorités politiques, militaires et religieuses. Ce 12 novembre était un tournant dans l'histoire de France, dans l'histoire de l'Église, mais aussi dans l'histoire de la pensée, simplement dans l'histoire des idées politiques. Ce fut le début de ce qu'on a appelé le ralliement à la République française. Nous étions sous le règne du pape Léon XIII, qui, bien évidemment, n'était pas étranger à ce tournant qui était plus qu'un symbole. Je vous propose aujourd'hui de comprendre cet événement historique, ce projet pastoral, car il s'agissait d'un projet pastoral, celui du pape Léon XIII. Roberto De Mattei, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Oui.
Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages d'histoire, vous êtes historien,
oui.
Vous avez été professeur à l'Université européenne de Rome,
oui.
Vous avez été le vice-président du CNR, le CNR pour les Français, c'est en quelque sorte l'équivalent italien de notre CNRS à nous.
Exactement.
Vous avez publié plusieurs ouvrages,
oui.
Et cette émission est organisée autour de votre ouvrage publié aux éditions du Cerf, Le ralliement de Léon XIII, l'échec d'un projet pastoral. Mais vous venez aussi de publier aux éditions du Drapeau Blanc un ouvrage absolument remarquable qui s'appelle Le Vicaire du Christ, dans lequel vous présentez quel est le rôle, quel doit être le rôle du pape. Et c'est un ouvrage extrêmement éclairant aujourd'hui, alors que nous avons un pape qui, en quelque sorte, change le charisme de l'image pontificale. Alors, nous pourrons évoquer ce livre au cours de cette émission, mais je vous ai invité pour présenter ce moment si particulier de l'Église, ce moment historique qui est celui du ralliement. Ma première question, Roberto De Mattei, est de savoir si dans l'histoire de l'Église, ce type de moment est unique. Est-ce que cela constitue un immense tournant dans l'histoire de l'Église, une date en quelque sorte où il y a un avant et un après ?
Sûrement, les ralliements de Léon XIII, c'est une date, à mon avis, très importante dans l'histoire de l'Église. Très importante car cet événement nous aide à comprendre l'histoire contemporaine. En particulier, avant d'étudier les ralliements, j'ai étudié le Concile Vatican II. Et donc, c'est en remontant dans l'histoire que j'ai cherché de individuer, disons, certaines racines du débat conciliaire, justement dans ce qui s'est passé en France à l'époque du ralliement. Le pontificat de Léon XIII, le pape Gioacchino Pecci, le pape du ralliement, et le pontificat de Léon XIII est peut-être assez étudié, mais surtout pour l'aspect philosophique, c'est-à-dire l'encyclique Aeterni Patris qui propose l'étude qui restaure, disons, la philosophie thomiste, ou bien pour l'encyclique, surtout peut-être Léon XIII est entré dans l'histoire comme le pape de Rerum Novarum, l'Église sur la doctrine sociale de l'Église. Mais à mon avis, il y a un aspect pastoral ou politique qui peut-être constitue l'expression plus importante d'un pontificat, le pontificat de Léon XIII, qui fut peut-être un pontificat politique par excellence. Et donc le ralliement, c'est, je dirais, le pivot de ce pontificat, et car le gouvernement de Léon XIII fut caractérisé par le projet de réaffirmer la primauté du siège apostolique et par, je dirais, redéfinir les rapports du Saint-Siège avec les États modernes et je dirais encore peut-être en plus proposer une sorte de réconciliation de l'Église avec la modernité. C'est ça le projet du ralliement, un projet donc qui ne se limite pas aux relations entre le Saint-Siège et la France, mais qui entraîne, je dirais, l'histoire de l'Église dans les 19e siècle et jusqu'à aujourd'hui. Donc l'étude du ralliement peut être considéré, à mon avis, comme une clé d'interprétation non seulement du pontificat de Léon XIII, mais aussi de l'histoire de l'Église de l'époque contemporaine. Donc, je vois dans le ralliement, je dirais, un paradigme pastoral, l'expression d'un mode de gouvernement ecclésiastique aux profondes conséquences.
Est-ce que ce n'est pas le propre de la papauté dans l'histoire ? Vous dites que c'est un pontife politique, mais ce n'est pas le premier pape politique de l'histoire. Il y en a eu de très nombreux. Et d'ailleurs,
oui,
vous parlez d'Innocent III. Innocent III qui constitue le sommet, l'apogée du pouvoir pontifical dans l'histoire médiévale. Est-ce que ce n'est pas une vocation, finalement, que de s'intéresser au domaine politique et de vouloir s'intégrer à cette modernité et répondre aux défis du temps présent?
Donc l'Église, sûrement, ne peut pas se désintéresser de la politique, car je dirais que la politique appartient au domaine de la morale. Et donc, sous un certain aspect, on peut dire que tous les papes dans l'histoire de l'Église se sont intéressés de politique. Mais le problème en Léon, c'est qui, je dirais, distingue Léon XIII, par exemple, de Innocent III que vous avez cité, c'est le fait que dans son pontificat, il y a une primauté de la politique. C'est-à-dire que, par exemple, son prédécesseur Pinef s'est sûrement intéressé de politique. Il a été au centre de la politique du 19e siècle. Mais, et aussi son successeur, Pidis, a été un pape qui s'est mêlé dans la politique, car il suffit de rappeler son entrechoque avec la Troisième République française. Mais la caractéristique de Pinef et Pidis est à mon avis, ils peuvent être définis comme des papes religieux. C'est-à-dire, pour eux, la politique n'a pas la première place. La politique est subordonnée à la religion. Alors que Léon XIII, qui, bien sûr, n'est pas ni le premier ni le dernier pape politique de l'histoire de l'Église, naturellement, mais appartient à cette catégorie de papes, il y en a bien d'autres, qui ont quelquefois fait prévaloir la politique sur la religion. C'est ça. Donc, à mon avis, dans l'Église, il y a certains papes religieux et d'autres papes politiques. Léon XIII est, comme peut-être Pie XI, pour citer un pape de notre siècle, ou peut-être aussi Paul VI, appartient à cette série des papes politiques.
Alors, cette politique, elle s'inscrit dans un contexte, et on ne le rappellera jamais assez, la papauté a perdu ses états, et en soi, c'était une révolution. Qu'est-ce qui différencie Pie IX, qui n'aimait pas Pecci? Vous le dites dans votre
oui,
livre.
Oui, bien
Qu'est-ce
sûr.
Qu'est-ce qui différencie Pie IX, qui veut défendre bec et ongle l'idée que l'on doit retrouver les états pontificaux, et Léon XIII, qui a le même objectif que Pie IX, c'est recouvrer les états pontificaux?
Oui, bien sûr. Ils, soit l'un que l'autre, ils défendent avec vigueur, avec force, le principe de la temporalité, disons, de l'état temporel de la papauté. Mais disons que pour Pie IX, le problème, c'est que il considère le pouvoir temporel du pape, c'est-à-dire son règne temporel dans les états romains, comme une condition nécessaire pour assurer la liberté de l'Église. C'est-à-dire que pour Pie IX, la chose la plus importante, c'est la dimension, je dirais, missionnaire, religieuse de l'Église. L'Église, la papauté, a comme tâche première la diffusion de la foi, de la vérité dans le monde, et les états temporaux aident, contribuent à mieux assurer cette mission, cette primaire. Et pour réussir, pour assurer ça, Pie IX ne cherche pas des relations privilégiées avec les puissances temporelles de l'époque. Mais au contraire, je dirais que Pie IX se désintéresse de cet aspect, mais il cherche surtout un dialogue, un lien avec la population catholique des différents États européens. Donc il n'est pas intéressé, par exemple, à la politique française qui soit Napoléon III ou d'autres, mais surtout il est intéressé, il a des sympathies personnelles, par exemple pour le comte de Chambord, qui à ce moment il n'a pas un pouvoir politique en France. Donc pour Pie IX, le rapport primaire est avec le peuple catholique de la France ou d'autres pays. Alors que Léon XIII cherche surtout le dialogue avec le pouvoir établi. Donc un lien privilégié avec, dans le cas de la France, avec la classe dirigeante de la Troisième République qui représente les pouvoirs établis en France. Et il n'est pas si intéressé des requêtes, des revendications qui viennent de la base catholique. Ça, c'est, à mon avis, une différence importante. Léon XIII, en tant que pape politique, cherche le rapport privilégié avec la coupole, je dirais, et alors que Pie IX et Pie X se sont intéressés surtout à la base. Mais cette différence est la conséquence d'une vision, je dirais, de la politique. Pour Léon XIII, les problèmes politiques est primaire, et donc si la politique, je dirais que pour Léon XIII, on pourrait appliquer à lui le mot la politique d'abord, Alors, s'il y a la politique d'abord pour Léon XIII, c'est clair que les rapports avec la Troisième République, c'est plus important que le rapport avec le petit peuple catholique de la France.
Alors, je vais chercher une autre analogie historique. Est-ce qu'on ne peut pas comparer la démarche de Léon XIII avec la démarche de Pie XI qui aura lieu bien plus tard vis-à-vis de l'État italien, Mussolini en l'occurrence, sur la volonté de sortir d'un conflit? Pie XI a eu un comportement politique vis-à-vis de Mussolini en signant les accords du Latran. Est-ce que on peut reprocher finalement à Léon XIII de ce comportement identique, cherchant à tout prix à trouver une solution? Et je vais peut-être un peu pousser la provocation jusqu'à dire, est-ce qu'on ne peut pas aussi comparer avec un Benoît XV qui, après la révolution 1917, se tourne vers les autorités qui ont fait la révolution en Russie pour essayer de trouver une solution pour les catholiques alors qu'ils étaient persécutés sous le régime tsariste?
Oui, je comprends la demande, mais la réponse est claire. C'est-à-dire que, disons, il y a la loi de la politique est différente de la loi de la proclamation de la vérité. C'est-à-dire que les critères de renier de la politique est les succès. Et donc, pour ce qui concerne Léon XIII, j'ai parlé, le titre de mon livre, c'est l'échec d'un projet pastoral. Le problème, c'est que d'un point de vue politique, qui est le critère de Léon XIII, ce projet politiquement a échoué. Et pour ce qui concerne Pie XI, sûrement les concordats avec l'Italie, avec Mussolini, n'a pas échoué. Donc on pourrait dire qu'il a été ce concordat, à mon avis, pour les Saint-Sièges, a été un succès. Mais il y a d'autres aspects de la politique de Pie XI qui ont représenté un échec. À mon avis, par exemple, sa politique envers le Mexique catholique, les cristeros, je dirais que Pie XI a plutôt abandonné les cristeros, et donc sa politique centra-américaine a été plutôt un échec, ou bien la condamnation de l'action française d'un point de vue politique, je dirais qu'il s'agissait d'un échec. La confirmation est donnée par le fait que Pie XII a levé l'excommunication portée par Pie XI. Et aussi, vous avez cité justement la politique de Benoît XV. Benoît XV, c'est une, bien un bon rappel, car Benoît XV représente dans l'Église, je dirais, la continuation de la politique de Léon XIII. Il a été élève du cardinal Rampolla, secrétaire d'État de Léon XIII. Et sûrement, il n'a pas absolument compris, Benoît XVI, à mon avis, ce qui se passait en Russie. Il a, dans une première phase, il a plutôt accrédité. Et aussi Pie XI, dans une première phase de son pontificat, a encouragé une certaine ostpolitique envers la Russie communiste. Bien sûr, il y a eu, en 1937, des encycliques très importantes, la Divini Redemptoris et Mit Brennender Sorge, qui représentent quelque chose de très important et significatif dans l'histoire de l'Église. Mais à mon avis, ces encycliques sont arrivées un peu trop tard. C'est-à-dire que Pie XI aurait dû peut-être condamner le communisme une dizaine d'années d'avance que 1937. Peut-être qu'il y a eu le soutien de son secrétaire d'État Eugenio Pacelli qui a contribué à cette condamnation, surtout pour la Mit Brennender Sorge. Mais Mais enfin, dans la pontificat de Pie XI, qui est lui aussi un pape plutôt politique, il y a eu des succès et des échecs.
Est-ce que je reçois Roberto De Mattei, auteur du livre Le ralliement de Léon XIII, l'échec d'un projet pastoral, un livre paru aux éditions du Cerf. Est-ce que, professeur, Léon XIII, quel type de personnage est-il? Vous le présentez comme un politicanti. Est-ce que l'on peut résumer l'histoire, non pas l'histoire, mais la situation romaine? D'un côté, il y a les politicanti, et de l'autre côté, il y a les intransigeanti, qui, eux, finalement, ne souhaitent pas négocier.
Oui, peut-être, en langue italienne, le mot politicante est un mot peut-être fort, dans le sens que politicante, c'est une politique, disons, de bas niveau, alors que la politique de Léon XIII a voulu être une politique d'haut niveau. Il a été nonce à Bruxelles, donc il a eu une petite expérience diplomatique, et il était convaincu que son prédécesseur Pinef était un saint homme, pieux, bon, mais complètement naïf et dépourvu sur le plan politique. Et donc que les états pontificaux, que Pinef avait perdu les états pontificaux par son ineptitude politique et aussi pour la responsabilité du cardinal Antonelli. Et lui, Léon XIII, voulait lancer pas une petite, pas une politique de petit cabotage, mais une grande politique, une autre politique, pour reconquérir avec les armes de la politique et de la négociation ce que Pinef avait perdu. Le projet était bien ambitieux, mais malheureusement, ce projet est échoué. Pourquoi le projet a échoué? Car ce projet, à mon avis, a manqué de réalisme. Et vous savez que dans la politique, le réalisme, c'est la première condition du succès. Par exemple, Léon XIII pensait à la possibilité d'une guerre entre la France et l'Italie. Et donc il y a eu des contacts entre le cardinal Rampolla et la diplomatie française pour, disons, pour pousser les choses dans cette direction. Dans sa pensée, il imaginait une guerre menée, oui, entre la France et l'Italie, qui aurait eu comme conséquence la défaite de l'Italie, l'écoulement de la monarchie savoyenne, l'instauration d'une république en Italie, le démembrement de l'État unitaire et l'affirmation d'une nouvelle confédération d'États dont le pape aurait été peut-être, sinon le président, la suprême autorité morale. Un pape qui aurait regagné les états pontificaux. Mais aujourd'hui, disons, les historiens nous disent que ce projet était tout à fait une illusion. On ne pourrait pas imaginer la réalisation. Et puis, il y avait une contradiction d'un point de vue politique, c'est-à-dire que en Italie, il y avait le catholicisme libéral, naturellement. Et la monarchie, le roi d'Italie était à l'époque Humbert premier, disons. Mais l'attitude de la monarchie libérale italienne envers, disons, la papauté était bien moins agressive de la dictature que l'attitude de la Troisième République française. Alors, plusieurs catholiques libéraux se demandaient en Italie, mais si les papes cherche l'accord, s'il y a la possibilité d'une de si bonne relation avec la entre le Saint-Siège et la Troisième République française. Et pourquoi imaginer en Italie de vouloir abattre la monarchie italienne, qui est quand même un pouvoir établi en Italie? Donc en France, on soutient le pouvoir établi, et un pouvoir établi qui est bien plus anti-chrétien que la monarchie italienne. Et en Italie, on voudrait le Saint-Siège va déstabiliser le pouvoir établi.
Alors, ce qui ressort de votre livre, c'est justement cette forme de naïveté de la part du Saint-Siège,
oui,
face à un gouvernement qui était anticlérical et plus anticlérical
bien
parce
sûr,
que ouais, franc-maçon. Et c'est prégnant. Comment on a envie de dire, mais comment une telle naïveté est possible? Pourquoi a eu lieu et comment a eu lieu le fameux toast d'Alger, et comment le pape en est-il arrivé à écrire, donc au milieu des sollicitudes, qui est l'encyclique qui sonne le ralliement?
Oui, à mon avis, il y a.
C'est de l'angélisme.
Il y a, disons que parler d'angélisme pour un homme qui est politique, il peut paraître une contradiction, mais sûrement il y a aussi cet aspect. À mon avis, il y avait en Léon XIII une dissociation entre sa pensée, car sur le plan doctrinal, Léon XIII nous assure une absolue continuité avec le magistère de son prédécesseur et aussi de son successeur. C'est-à-dire qu'on peut dire que la doctrine de l'Église, oui, bien sûr, il peut y avoir quelques nuances, mais quand même, le magistère de Pie IX, de Léon XIII, de Pie X, sont en continuité. Et alors qu'on registre une discontinuité, une fracture, je dirais, entre les magistères de Léon XIII et sa politique, son projet pastoral. Alors que dans le cas de Pie IX, il y a une absolue continuité entre son magistère et sa pastorale. Et nous voyons en Léon XIII cette contradiction, c'est-à-dire qu'il est un pape d'un point de vue doctrinal antilibéral, mais son tour d'esprit, sa sensibilité, donc son projet pastoral est un projet pastoral imbu de libéralisme. Et ça est contradictoire, car on ne peut pas dire qu'il y a des erreurs libéraux dans la pensée ça, je dirais, c'est une différence importante avec, par exemple, le Concile Vatican II. Car je dirais que dans le Concile Vatican II, il y a pas seulement une dimension pastorale, mais aussi une dimension doctrinale qui nous semble être imprégnée de certaines idées nouvelles. On ne peut pas lancer contre Léon XIII cette accusation.
Est-ce que, parce qu'il y a Pie X qui succède à Léon XIII, et Pie X, c'est la séparation. Mais est-ce que cette séparation, c'est le fruit d'une opposition, la séparation, de deux projets, au fond, de société? D'un côté, la doctrine de l'Église, la volonté de restaurer le règne du Christ, et on dit bien restaurer, non pas instaurare, on dit bien, pardon, instaurer tout dans le Christ, et non pas restaurer tout dans le Christ. Est-ce que cette opposition, Léon XIII ne la voulait pas? On le voit à travers votre ouvrage.
Oui.
Est-ce que cette séparation qui aura lieu sous Saint Pie X n'était pas l'idéal pour que chacun reprenne sa liberté? Et d'ailleurs, vous citez Aristide Briand qui dit « Saint Pie X est le seul à avoir compris ».
Il a été prévoyant, oui.
Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas cette...
Oui, je comprends bien la question. Sûrement, ce qui est sûr, c'est que Léon XIII voulait absolument assurer le concordat napoléonien, c'est-à-dire du 1801, c'est-à-dire que pour lui, pour Léon XIII, la pire chose était la séparation, car séparation signifie la fin d'une relation politique entre deux pouvoirs. Dans ce cas, le Saint-Siège et la Troisième République. Et lui, Léon XIII, ne voulait pas absolument ça. Il voulait au contraire renouer, solidifier les relations. Mais malheureusement, le résultat final du ralliement a été l'abolition du concordat. Et la séparation, pour la politique, pour la vision politique de Léon XIII et de ses collaborateurs comme le cardinal Rampolla et d'autres, représente, je dirais, un échec total. Au contraire, comme vous dites, en effet, cette situation nouvelle de séparation a représenté, pas d'un point de vue idéal, mais d'un point de vue pratique, une opportunité meilleure pour l'Église, car pour la première fois, en 1906, Pie X, après plus qu'un siècle, a nommé, mais je dirais peut-être pour la première fois dans l'histoire de France, il a nommé des évêques en France, disons d'une façon complètement libre et indépendante, sans, disons, la traditionnelle approbation du gouvernement français qui soit le gouvernement républicain. Donc, il a nommé des évêques, il disait, nés pour la guerre. Nés pour la guerre, et ça a représenté une chance importante, car la génération d'évêques nommés par Pie X a été une excellente génération d'évêques dans l'histoire de France, à mon avis.
Est-ce que il y a eu des conséquences, bien évidemment, au ralliement, et vous montrez très bien au sein des catholiques français toutes ces conséquences. Quelles sont ces conséquences pour les catholiques français, et est-ce que cela va marquer durablement le catholicisme français au XXe siècle ?
À mon avis, malheureusement, a marqué le catholicisme français, car jusqu'à Léon XIII, il y avait, je dirais, une certaine symbiose entre la politique et la religion, dans le sens que après la Révolution française, la devise Dieu-Roi avait représenté, je dirais, les signes de ralliement, dans le bon sens, des catholiques français, c'est-à-dire que tous les catholiques étaient royalistes en tant que catholiques, ou si vous préférez, catholiques en tant que royalistes. C'est-à-dire qu'il existait, comment dire, une alliance qui n'était pas une alliance instrumentelle, mais métaphysique, entre la monarchie et la foi catholique. Cette alliance a été brisée et rompue, et depuis alors, on a eu en France, mais je dirais que la France a été toujours le paradigme politique de toute l'Europe, donc les conséquences, on peut les mesurer pas seulement en France, mais en toute Europe. Il y a eu des catholiques républicaine, mais quand je parle de catholique républicain, je ne parle pas de l'adhésion à une forme politique, mais d'une adhésion à une certaine idéologie républicaine et démocratique, positiviste, progressiste. Donc des catholiques républicains d'une part, et d'autre part, des athées, c'est-à-dire des hommes, pas catholiques, mais conservateurs, royalistes, réactionnaires d'un point de vue politique. Donc les liens entre la politique et la religion a été brisé. Et le ralliement marque la naissance de la démocratie chrétienne moderne qui s'est peut-être exprimée, peut-être pas seulement en France, mais surtout en Italie, d'autres pays. Ça, c'est une conséquence, à mon avis, importante du ralliement.
Je parlais au début de cette émission de l'autre ouvrage que vous avez publié récemment, Le Vicaire du Christ, oui, qui est un panorama extrêmement complet du rôle du pape. Et vous posez la question à un moment de savoir si un catholique peut désobéir au pape. Parce que on imagine que face à l'encyclique Au milieu des sollicitudes de Léon XIII, certains catholiques ont très mal réagi et n'ont pas voulu obéir à ce ralliement.
Oui, et alors je voudrais distinguer, disons, ma position de ce qu'on pourrait définir la position, une certaine position gallicane française, c'est-à-dire que dans l'histoire de France, nous savons qu'il, depuis Philippe le Bel jusqu'à Bossuet, jusqu'au XIXe siècle, il existe une tradition gallicane qui réclame une certaine indépendance de l'Église. Et d'autre part, il y a une ligne de pensée plutôt, on dit, ultramontaine, plus fidèle à la papauté et à Rome. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est que la critique au ralliement ne provient pas seulement des milliers gallicans, mais pour la première fois aussi des milliers contre-révolutionnaires et ultramontains. Donc, je cite dans mon livre la position de l'abbé Barbier, de Monseigneur de la Suze, de Dom Bess, d'autres auteurs qui sont très fidèles et dévoués à la papauté, au siège de Rome, mais qui prend la liberté de résister au ralliement, car il s'agit d'un choix politique. S'il ne s'agit pas, disons, d'un acte solennel et infaillible du roman un pontife. Dans le livre que vous avez cité, Les Vicaires du Christ, je cherche d'exposer d'une façon pas du tout originelle, mais plutôt conforme à la doctrine, au magistère de l'Église, ce que la papauté représente pour un catholique. Et après avoir montré que pour un catholique, le pape est celui qui gouverne l'Église et dans l'Église a un pouvoir plein, immédiat, illimité, qui s'extend pleinement dans tous les domaines de la foi et de la morale. Et je souligne cependant que que le gouvernement du pape en soi n'est pas nécessairement infaillible, et aussi sur le plan doctrinal du magistère, il peut arriver qu'un pape se trompe, et dans ces cas-là est licite une certaine réserve ou dans quelques cas résistance. Il s'agit évidemment de ce que j'appelle le cas d'exception, car normalement l'attitude d'un catholique doit être la fidélité, la dévotion filiale au Saint-Père. Mais quand même, l'histoire nous enseigne qu'il y a certains moments où la conscience du fidèle est posée, se pose certains problème et peut-être va être poussé à cette résistance filiale même au vicaire du Christ. Je cherche dans mon livre d'expliquer ça.
Je reviens à Léon XIII.
Oui.
Est-ce que on ne peut pas dire que on a bien compris que Léon XIII avait un projet. Ce projet était de récupérer les États pontificaux et finalement de faire de la politique, d'abord vis-à-vis de l'Allemagne, échec, puis ensuite vis-à-vis de la France, nouvel échec. Mais est-ce que dans la diplomatie, nous n'avons pas dit, d'ailleurs, il faut considérer l'œuvre de Léon XIII dans son unicité, ce que vous faites, et Léon XIII, c'est celui qui restaure l'enseignement du thomisme, ce qu'on appellera le néo-thomisme.
Oui.
Or, il y a ce que vous disiez au début de cette émission, cette idée de morale. Est-ce que le pape Léon XIII, malgré tout, pour lui donner un peu d'aspect positif, une image positive, ne tient pas à redonner dans les relations internationales une forme de morale en donnant une puissance à la papauté, puissance qu'elle a perdue avec les États pontificaux, eh bien, ce serait une puissance qu'elle retrouverait en s'inscrivant comme une puissance morale, ce qu'elle a été tout au long du XXe siècle.
C'est bien juste de voir dans le pontificat de Léon XIII seulement des aspects négatifs. Et sûrement, si nous voulons chercher une dimension positive qui existe, on doit la chercher sur le plan doctrinal plutôt que sur le plan du gouvernement ou de la politique. Mais pour ça, je ne dirais pas que le Saint-Siège a acquis sur son pontificat une autorité morale plus grande d'un point de vue politique, car vous avez une autorité morale plus grande quand ou bien vous avez un succès politique, première condition. Et Léon XIII, malheureusement, n'a pas eu ce succès. Ou bien, si vous êtes, c'est le cas de Pinève, par exemple. Pinève, face à l'histoire, il semble être invaincu, car il a tout perdu d'un point de vue politique. Mais quand même, l'autorité morale de Pinève, à la fin de son pontificat, quand il est mort dans l'année 1878, l'autorité morale de Pinève a été en Europe plus grande que l'autorité morale, à mon avis, de Léon XIII au moment de sa mort. Car on pourrait donner un autre exemple, l'exemple de Pie XII. Après la Deuxième Guerre mondiale, dans l'année 1950, par exemple, l'année du jubilé de la moitié du XXe siècle, l'année de la promulgation du dogma de l'Assomption. Jamais dans l'histoire, peut-être, un pontificat a été... l'autorité morale de la papauté était si haute que dans ce moment-là. Mais d'un point de vue politique, il n'y avait pas eu aucun succès pour Pie XII. Mais quand même, avant la guerre et pendant la guerre, avec son magistère, Pie XII avait... souligné, je dirais, les racines profondes de la guerre et de la crise. Et il avait montré quelle aurait peut être les conditions d'une reconstruction morale et spirituelle de l'Europe. Alors, c'est ça, à mon avis, c'est qui donne l'autorité morale. Un projet qui soit avant tout un projet religieux, spirituel et moral. Un projet qui, Pidis a résumé dans le mot que vous avez bien cité, instaurare omnia in Christo. Ça, c'est un programme de... C'est aussi un programme politique, je dirais. Bien, nous ne trouvons pas en Léon XIII, deux mots de cette force.
Eh bien, c'est sur cette devise de Saint-Pilice que nous allons nous quitter. Professeur des Mattei, merci beaucoup d'avoir
merci à vous
à notre invitation. Je rappelle vos ouvrages, donc Le ralliement de Léon XIII, L'échec d'un projet pastoral, paru aux éditions du Cerf, et Le vicaire du Christ, aux éditions Le drapeau blanc. Merci beaucoup,
merci à vous, monsieur.
Auditeurs, et à très bientôt pour une nouvelle émission de Storia Voce.